Les langues se délient. Parole à l'étranger.
J'ai marché jusqu'à vous.
Ils sont albanais, burkinabés, maliens. Je vais à leur rencontre et on discute un moment.
Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'algérien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan.
Nous sommes donc sur la place Bellecour à Lyon et nous allons accueillir prochainement la marche des solidarités qui est partie de Marseille. Et j'ai là devant moi Sylvie qui est de la municipalité de Lyon. Dites-moi Sylvie, la municipalité s'est mouillée, s'est engagée pour accueillir cette marche ?
Oui, tout à fait. Nous accordons un soutien effectivement à l'organisation logistique de cette marche. Et nous sommes présents aujourd'hui. Donc moi, je suis conseillère déléguée à l'accueil et l'hospitalité et d'autres élus de la ville de Lyon seront là également pour marquer notre soutien à cette marche et à la demande qu'elle porte de régularisation des personnes sans papier.
Merci. Dites-moi, pouvez-vous préciser pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, c'est quoi exactement cette marche de la solidarité ?
Alors c'est une marche donc nationale hein, qui part de plusieurs villes de France et qui va converger pour arriver à Paris le 17 octobre. Et qui porte une demande, alors plusieurs demandes, mais notamment celle de la régularisation des personnes sans papier.
Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on peut imaginer que c'est encore plus sensible. Vous pourriez en dire quoi ?
Oui, alors effectivement, ce qui est important à noter, et encore plus effectivement, comme vous le soulignez dans ce contexte de crise, c'est qu'il est important de faire société tous ensemble et de gérer vraiment tous ensemble les gros défis qui sont déjà là et qui nous attendent. La régularisation des personnes sans papier, ça permettrait à toutes ces personnes de sortir de situations de fragilité et de pouvoir accéder à un emploi, à la protection sociale, au logement, beaucoup plus facilement. Et ça permettrait ainsi qu'on soit vraiment tous soudés et qu'on puisse vraiment ne laisser personne sur le bord du chemin dans ce contexte de crise où c'est encore plus important effectivement.
Alors dites-moi, historiquement, on a eu des exemples où il y a eu des moments de régularisation et on n'a pas noté que c'est appelé ce qu'on appelle les appels d'air ou... Vous avez des souvenirs de moments comme ça en France ou même dans d'autres pays ?
Oui, tout à fait. Alors, en France, il y a eu des mouvements de régularisation, alors souvent liés à des contextes d'emploi, hein, parce qu'il y a quand même une circulaire qui prévoit des conditions de régularisation pour des personnes qui sont en France et qui travaillent depuis plusieurs années, etc. Sur cette base-là, il y a déjà eu des vagues de régularisation. Dans d'autres pays aussi, on peut noter, alors récemment, le Portugal a fait une régularisation, alors temporaire, liée à la crise du Covid. Et également en Italie, on a eu une régularisation liée à des critères d'emploi, donc de personnes qui travaillaient dans certains secteurs d'activité particulièrement en tension. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on n'a jamais constaté effectivement que cela créait un appel d'air ou quoi que ce soit de ce type-là.
Oui. Alors, il y a d'autres arguments que j'ai entendus. Entre autres, ça permettrait peut-être de freiner le travail au noir. Ça permettrait peut-être plus de sécurité pour les populations vulnérables. Est-ce que vous avez, vous, d'autres arguments qui pourraient...
Oui, alors je suis complètement d'accord. Ça permettrait de freiner le travail au noir, de permettre à toutes ces personnes sans papier de pouvoir exercer leur emploi effectivement en toute légalité et de ne pas se retrouver dans des situations d'insécurité. Et du coup, ce qui est important de souligner, je pense, c'est que ça serait bénéfique en fait pour la société tout entière, puisque ça permettrait de faire retomber parfois certaines tensions hein, liées à ces situations effectivement qui sont un peu inextricables, de non-accès à un emploi déclaré légal, etc. Ça permettrait également aussi, comme vous le dites, de faire baisser le travail au noir. Donc ce sont des personnes du coup, qui cotiseraient, qui paieraient leurs impôts, qui contribueraient à la richesse nationale. Et je pense que c'est vraiment positif à tout point de vue, en fait. Enfin, vraiment pour tout le monde, pour les personnes sans papier, mais aussi vraiment pour l'ensemble de la société.
Je me permets d'intervenir pour rappeler que la Cour des comptes, qu'on ne peut pas suspecter de quoi que ce soit, récemment a rendu un rapport où elle précisait que la politique migratoire de la France coûte très cher et que ce n'était pas du tout adapté à notre société actuellement. Vous avez lu ce rapport, vous connaissez ce rapport. Hein.
Oui, tout à fait, je l'ai lu et c'est vrai qu'il est vraiment riche d'enseignements puisqu'il décortique vraiment bien effectivement les difficultés que posent les politiques actuelles qui sont mises en œuvre dans tout ce qui est accès au territoire national, les conditions d'accès à des titres de séjour, etc. C'est vrai que c'est un système qui est coûteux et c'est vrai que c'est un système qui pose vraiment un certain nombre de questions. Et le rapport de la Chambre des comptes, effectivement, le souligne très bien.
Dites-moi, je reviens vers l'élu que vous êtes de la ville de Lyon. Vous connaissez comme moi, sans doute, Anne Vita. Vous voulez m'en dire un mot ?
Oui, alors donc l'ANVITA, c'est l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants. Donc c'est une association qui a été créée en 2018 et qui regroupe des collectivités, alors essentiellement des villes, mais il y a aussi quelques départements et régions. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en réseau toutes ces villes qui veulent mettre en place une politique d'accueil. Une politique d'accueil, d'hospitalité. C'est vraiment quelque chose qu'on constate de plus en plus dans les collectivités. Nous, en tant qu'élus de collectivité, on a vraiment affaire tous les jours à toutes ces problématiques dont on parlait. Et nous, on souhaite vraiment accueillir au mieux les populations. Et pour cela, ce réseau est important parce qu'il permet de s'entraider entre villes, de pouvoir s'échanger des bonnes pratiques, de pouvoir se renseigner, de pouvoir améliorer nos politiques. Et puis, c'est un espace d'échange aussi, de réflexion plus globale justement sur que pourrait être une politique de l'accueil aujourd'hui meilleure que ce qu'elle n'est en tout cas.
Vous connaissez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'autres villes qui sont déjà à ANVITA ?
Oui. Alors il y avait la mairie du 1er arrondissement de Lyon et Grenoble qui étaient dans les villes fondatrices. Depuis, d'autres ont rejoint ce réseau, donc comme Villeurbanne et Échirol, je crois. Et nous, au niveau de la ville de Lyon, on a pour projet donc d'adhérer dans les mois qui viennent, donc la ville de Lyon au niveau global, d'adhérer à l'ANVITA.
Écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Avec les sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers, solidarité avec les sans-papiers.
Toujours sur la place Bellecour, je rencontre maintenant Hamid et Abdel qui marchent sur donc cette marche de solidarité et de la régularisation depuis Marseille. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'est pas créer.
Bonjour. Donc c'est Hamid du collectif des sans-papiers de la ville de Marseille. Ah oui. Nous avons démarré la marche le 19 septembre. On a fait 13 étapes. On est arrivé avant-hier là dans la localité de Lyon qui est Vénissieux. Donc aujourd'hui, nous préparons pour l'organisation d'une marche dans cette ville de Lyon. Et le temps de continuer le parcours demain matin.
Vous aussi, Abdel, vous êtes donc parti de Marseille.
Oui, de Marseille. Bon, je suis un membre du collectif SP13, mon camarade Indy. Nous allons partir, nous allons faire déjà 13 étapes. Nous allons essayer à Lyon. Bon, nous allons préparer tout de suite une grande manifestation ici à Lyon, voilà, et après demain, nous allons...
Vous partez pour Paris.
Voilà, c'est ça.
Dites-moi, tous les deux, qu'est-ce qui a fait qu'au départ, vous avez eu envie de vous engager dans cette manifestation pour soutenir les sans-papiers, pour demander la régularisation ?
Si je me permets de parler au nom de tous les collectifs et de toutes personnes qui se trouvent en France en situation irrégulière ou bien sans-papiers, parce que moi, j'aime pas cette appellation-là. Je suis d'abord avec tous mes papiers. Et par contre, je suis un demandeur de papiers. Voilà, dont le but unique et l'objectif principal de cette marche, c'est tout le monde qui réclame les papiers pour finir avec pas mal d'injustices, pas mal d'inégalités. C'est pour finir avec l'exploitation dans le travail et c'est pour finir avec beaucoup d'inégalités que subit sans-papiers dans sa vie quotidienne. Et aussi, pour le rappeler, sans-papiers, il est quelqu'un qui vit, qui existe et qui contribue pour l'économie française. Il paye ses impôts, il paye ses loyers. Et du coup, sur chaque fois qu'on paye quelque chose, que ce soit dans les supermarchés ou bien quand on paye notre loyer, donc il y a une TVA là-dessus. Donc un sans-papier, d'une façon indirecte, et il est comme un citoyen français, il paye ses impôts et il n'est pas aussi...
Vous êtes en train de nous dire, au fond, que si l'économie française était un petit peu intelligente, elle comprendrait que plutôt que de marginaliser les gens et de ne pas leur donner les conditions, ils pourraient contribuer à l'économie française et rapporter donc à l'État.
Oui, du coup, pendant la crise du Covid, j'étais moi-même sur le terrain. J'ai travaillé dans un marché de fruits et légumes, là où, à ce moment-là, on ne trouve même pas des masques dans les pharmacies ou bien du gel hydroalcoolique. Donc du coup, à ce moment-là, tous les sans-papiers, ils ont occupé des fonctions ou bien ils ont travaillé au premier rang. Donc ils ont sacrifié leur vie par rapport au danger qui les guette tous les jours dans leurs fonctions. Et si on regarde tous les bâtiments qui poussent dans toute la France, c'est grâce aux sans-papiers. Et si on regarde tous les métiers les plus pénibles et les plus durs, tels que l'assistance aux personnes âgées à domicile et pour le ramassage des déchets ménagers et pour dans la restauration, dans l'hôtellerie, tous les métiers qui sont pénibles. Et il faut que les citoyens français le savent, c'est les sans-papiers qui font ces travaux-là.
D'ailleurs, je me tourne vers Abdel. On dit souvent, Abdel, que si effectivement les sans-papiers ne travaillaient plus, la France, l'économie de la France s'effondrerait. Vous en pensez quoi?
C'est normal. Bon, pour les sans-papiers, ce sont des gens comme les autres. Ils sont travaillés. Par exemple, moi personnellement, pendant le confinement, je travaillais dans une association, il s'appelle CH3 de 3e arrondissement à Marseille. Nous sommes fait des forces pour partager les soutiens. Je n'ai pas de papiers, mais je peux soutien pour faire des aides avec les associations. Nous sommes déjà travaillé comme ça dans le Covid. Nous sommes juste pour moi, pour un petit papier, franchement un peu compliqué. Ouais.
On dit souvent que si on pouvait régulariser ce qu'on appelle les sans-papiers, ça serait une manière de lutter contre le travail au noir, ça serait permettre aux populations vulnérables, je pense plutôt les mineurs par exemple, d'être beaucoup moins vulnérables. Vous connaissez d'autres arguments qui pourraient aider?
À l'heure actuelle, je sais bien que le problème d'immigration ne va pas se finir avec nous ou bien avant nous, donc ça sera une lutte rude et un combat qui va continuer, même si toute cette mobilisation, je pense qu'on aura une réponse favorable des autorités françaises, mais quoi qu'il arrive, on n'aura pas de réponse, on aura à continuer le combat au-delà du 17 octobre.
D'autant plus qu'il y a quand même des pays européens, j'ai envie de dire un petit peu plus intelligents que nous, qui ont régularisé et on n'a pas vu de conséquences. Vous pensez, vous, à des pays qui ont régularisé aujourd'hui?
Il y a le Portugal, l'Italie, l'Allemagne. Peut-être l'Allemagne, l'Espagne. Oui. C'est pour ça que nous allons faire ça, cette marche-là historique vers l'Élysée, pour parler avec le gouvernement, pourquoi pas avec le président Macron, pour écouter de nous. Voilà, nous sommes tous des humains, il faut qu'il y ait quelque chose pour nous.
Alors Abdel, vous venez de parler donc de effectivement, cette finalité qui serait le 17 octobre, quand vous arriverez à Paris, d'être reçu par M. Macron. Dites-moi, s'il était en face de vous en ce moment, M. Macron, vous lui diriez quoi?
Je dis, voilà, nous sommes là, nous sommes fait de presque 900 km à pied, personnellement, où il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles, sans papiers, ils souffrent depuis le confinement, depuis cette épidémie-là, sans travail, sans des aides, sans... Voilà, il faut prendre les choses, humanité, voilà, c'est ça le but de l'OMH. Et moi, personnellement, pour régularisation pour toutes et tous, c'est ça le but aussi.
Une régularisation totale et pérenne, qui dure dans le temps.
C'est ça, oui.
Et qui permette de travailler légalement.
C'est ça, oui, tout le monde, voilà.
Quant à vous, si vous étiez devant M. Macron aujourd'hui, vous lui diriez quoi?
Je lui demande qu'on est là, qu'on existe en France, on n'est pas ailleurs. Du coup, on participe d'une façon indirecte. Je lui dis qu'on n'est pas invisible, on est visible maintenant. Je lui dis juste tout simplement qu'il soit humain et qu'il fait le même geste que l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont fait pour cette catégorie de personnes. Et nous sommes là, on est bien intégrés, on est bien partis sur... Il y a beaucoup de nous qui sont diplômés déjà et qui sont déjà prêts à participer pour le développement et pour dans l'économie française. Je lui demande tout simplement qu'il nous regarde, qu'il regarde envers nous et qu'il fasse quelque chose pour régulariser ces personnes-là qui se trouvent dans la précarité, dans l'injustice, dans les inégalités, face à une administration que tout le monde ne peut pas vraiment accéder, parce qu'il y a des personnes parmi nous qui, à ce moment-là, ils n'ont ni couverture médicale, ni peut-être un travail vraiment qui répond à leurs besoins quotidiens. Donc je lui demande de faire comme l'Espagne et l'Italie, et de régulariser toute personne qui se trouve sans papier en France.
D'autant plus qu'on sait qu'actuellement en France, il y a plein de postes à pourvoir. Vous êtes l'un et l'autre, ainsi que vos amis, mais dans la force de l'âge, vous avez des bras pour travailler, vous êtes courageux. Et malheureusement, ces postes ne sont pas pourvus en ce moment, ce qui semble assez aberrant.
Actuellement, on est déjà sur le terrain. Personnellement, moi et lui, on travaille déjà. On travaille en noir et on travaille plus d'heures que les autres. On n'a pas le droit à un congé, on n'a pas le droit à un week-end comme toute personne qui travaille. Donc on travaille plus d'heures et des salaires misérables. Juste de quoi faire nourrir la famille. Mais du coup, on participe et on travaille, on est là, on n'est pas ailleurs. Donc du coup, il faut qu'ils nous regardent. Il faut qu'il, du moment qu'on est là, on a aussi des enfants qui sont à l'école, des enfants surtout qui souffrent à l'école, qui ne peuvent pas partir en vacances avec leurs collègues quand il y a une excursion à l'extérieur de la France. Donc ces enfants-là, ils subissent. Moi, personnellement, j'ai un enfant, il y a l'année passée, ses collègues sont tous partis en Espagne, mais lui, il ne peut pas partir. Et du coup, je dis, voilà, tu dis à tes collègues qu'on a une fête dans la famille, on a une fête d'un frère dans la famille. Ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu une occasion comme ça, une fête qui nous ressemble et tout. Du coup, je préfère rester à la fête que de partir en Espagne. Voilà.
Merci à tous les deux pour ce témoignage très fort et salam alaikum.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Allez, bon courage.